VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. Midi à Kinshasa. Des tirs nourris ont été entendus aujourd'hui près de la prison centrale de Kinshasa en RDC, déjà cible d'une attaque qui avait occasionné l'évasion de plus de 4000 détenus au mois de mai dernier. Selon des témoignages d'habitants, il n'y a plus de circulation. Les avenues sont vides. Ici à Selembao, quartier populaire du centre de Kinshasa où est situé le pénitencier, a déclaré à l'AFP Emmanuel Kol, un militant des droits des prisonniers. Ces différentes attaques ont lieu au moment où la RDC est minée par une crise politique profonde liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a échu le 20 décembre dernier. Toujours en RDC, dans le sud-est cette fois-ci, de nouveaux affrontements meurtriers ont éclaté entre Bantous et Pygmées. La société civile parle de plus de 50 morts, mais ce bilan n'est pas confirmé de sources officielles. Rosine Monezero.
Modeste Kamanzi, un responsable de la société civile de la province du Tanganyika, affirme que les affrontements dans le village de Lambo-Kilela, au nord-ouest de Kalemi, ont fait 55 morts, dont 45 Bantous. Le gouverneur provincial Ngoï Kitangala tempère ses propos et dit avoir envoyé une équipe sur place pour évaluer les dégâts et donner un bilan fiable. De nombreux heurts interviennent entre des Bantous Luba et des Pygmétois dans le nord du Katanga. 4 personnes ont été tuées la semaine dernière et un village brûlé. En septembre 2016, 4 Bantous ont été condamnés à 15 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Souvent considérés comme des citoyens de seconde zone, les Pygmées cherchent à faire reconnaître leurs droits et se heurtent souvent au refus de la majorité Bantou. En février dernier, un pacte de non-agression a été conclu sous la médiation de Kinshasa, des autorités locales et de la MONUSCO.
On reste en Afrique centrale, au Cameroun notamment. C'est ce week-end que s'est achevé, après 4 jours, la toute première édition du Festival de musique et danse patrimoniale du pays, organisé par le ministère des Arts et de la Culture. L'événement a attiré un grand nombre de visiteurs de très populaires groupes de danse traditionnelle du Cameroun. À Yaoundé, reportage de notre correspondant Emmanuel Gilles Luntap.
Le patrimoine culturel du Cameroun en matière de danse, musique et tenue traditionnelle a captivé un large public sur le site du musée national à Yaoundé. Au terme du festival, un sentiment de satisfaction générale. Professeur Raymond Assomban, directeur du musée national.
Il y a au moins 4000 personnes ici. Il fallait faire ceci pour que les Camerounais comprennent qu'ils sont un et indivisibles. L'unité dans la diversité. Et c'était donc l'objectif de ce festival.
L'unité des Camerounais dans la diversité culturelle, oui, mais le festival a davantage été un rendez-vous pour se ressourcer aux valeurs traditionnelles pour plusieurs visiteurs du site du festival.
Il y a vraiment la manifestation culturelle d'un autre genre que nous ne vivons pas tous les jours.
Bah, je suis venu comme tout le monde pour découvrir le riche patrimoine camerounais et nous voyons de très bonnes choses et la culture camerounaise est extrêmement riche et elle mériterait à être bien connue.
Et je suis là avec mes enfants parce que eux, ils doivent voir de quoi est constitué cet ADN. C'est l'ADN, c'est ce qui fait quelqu'un et c'est donc très important pour la vie.
Les jeunes Camerounais sont aussi venus découvrir le patrimoine culturel d'antan. Certains n'ont pas caché leur fascination au regard du riche trésor culturel mis à découvert à l'occasion.
On a vu beaucoup de danse. La danse des petits, la danse de plusieurs groupes de danse.
C'est la première fois que tu découvres cette danse?
C'est la première fois. J'ai bien aimé.
Ce que le Cameroun compte de meilleur dans l'art de la sculpture, des instruments de musique ou de la confection des tenues traditionnelles de danse a aussi fait l'objet d'expositions durant le festival. Parmi les exposantes, une originaire du Nord-Ouest, en zone anglophone du Cameroun, Princesse Boutigny.
Vous voyez la plupart des objets ici, là, ça parle de la musique. De l'autre côté, vous voyez les colliers de plusieurs qualités et de plusieurs couleurs. C'est ce que remporte lors du festival. Tous les sacs que vous voyez, on utilise ça pour aller dans les festivals. Vous pouvez regarder de l'autre côté, vous voyez les objets d'art. Vous voyez les femmes en train de taper, les hommes en train de taper, les sifflets et les costumes traditionnels.
Au total, les 4 aires culturelles du Cameroun ont été représentées au premier festival des danses et musiques patrimoniales, offrant un spectacle de soir au village, en pleine capitale, devant un public de citadins très admiratif. Emmanuel Jeloutap, Yaoundé, VOA Afrique.
Merci, Jules. Les Kenyans sont appelés à élire demain mardi un nouveau président à l'occasion d'un scrutin tendu et indécis qui verra s'affronter deux adversaires de longue date, le chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga. Le Kenya garde en mémoire le souvenir de la présidentielle de décembre 2007 qui s'est terminée par un bain de sang. Déjà candidat à l'époque, Raila Odinga, 72 ans, avait contesté le résultat, la victoire de Mwai Kibaki, et appelé à des manifestations. Plus de 1200 personnes avaient trouvé la mort dans les affrontements ethniques qui s'en étaient suivis. À l'approche du scrutin de demain, donc, les instituts de sondage donnent les deux hommes au coude à coude.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, depuis l'avènement du président Patrice Talon, vote de déchéance contre des maires, remise en cause de l'élection de certains conseillers communaux et dernièrement, suspension du maire de Cotonou, Léadis Oglo, ce qui pèserait de lourdes charges. Et depuis vendredi, cette affaire défraie la chronique, enflamme les réseaux sociaux et divise la classe politique béninoise, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La suspension du maire intervient quelques heures après l'audition censurata dans la nuit, une perquisition au domicile du maire. Et c'est là que les militants et autres acteurs politiques se sont emparés du dossier, appelant le peuple à barrer la voie au gouvernement qui voudrait brimer les droits et libertés d'un citoyen. Rosine Soglo, députée et maman du maire, s'en prend violemment au chef de l'État qu'elle accuse d'être en train de tirer les ficelles dans l'ombre.
Talon se trompe de personne, il se trompe de... C'est pas Léadis qui veut, c'est moi que Talon veut. Alors, qu'il vienne me chercher. Quand il ne lâchera pas mon fils, il mourra derrière lui, je le jure.
Le ministre de la Justice est monté au créneau le lendemain pour expliquer la situation.
Ce n'était pas une procédure d'arrestation. Nulle personne n'a été placée en garde à vue. Alors que les événements s'y prêtaient, les circonstances s'y prêtaient. Il s'agit d'une procédure d'enquête policière. Rien n'a été fait. Or, le code de procédure pénale du Bénin. Nul n'a le droit de faire obstruction à une enquête.
Actuellement, le maire reste introuvable et son fauteuil est déjà occupé par son intérimaire qui pourrait lui céder la place dans deux mois au cas où le Conseil des ministres n'aura pas décidé de sa révocation telle que prévue par la loi. Il faut signaler que le maire a eu droit à plusieurs audits et qu'il est accusé d'avoir mal géré les ressources financières de la mairie. Tous les regards sont tournés vers la justice qui se doit de trancher cette affaire dans laquelle le maire et sa famille clament innocence. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a promis dimanche d'investir davantage dans les forces armées pour mettre fin aux troubles qui secouent le pays depuis le début de l'année. Un important travail de reprise en main de notre armée est plus que jamais nécessaire, a déclaré le président dans une allocution télévisée retransmise par la télévision nationale à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance. La Côte d'Ivoire a été secouée depuis janvier par plusieurs mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée qui ont revendiqué et obtenu d'importantes primes pour baisser les armes. Le pays connaît aussi depuis quelques semaines une série de braquages contre des postes de police et de gendarmerie lors desquels armes et argent sont emportés par des hommes armés non identifiés mais agissant de manière professionnelle. Au moins 187 migrants sont parvenus à entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc en courant à toute vitesse pour passer le poste frontière au petit matin, a annoncé aujourd'hui la préfecture de l'enclave. Ils sont entrés à 5 heures du matin par le poste frontalier en courant, a expliqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture de cette enclave espagnole au Maroc. Ce sprint nocturne a surpris les agents qui, débordés, n'ont pu retenir les coureurs. Ils ont majoritairement été transférés vers un centre de rétention d'où ils pourront faire une demande d'asile. Et puis la Corée du Nord a condamné aujourd'hui la nouvelle volée de sanctions que lui a infligée l'ONU, déclarant qu'elle ne négocierait pas sur ses programmes nucléaires et balistiques tant qu'elle serait sous la menace des États-Unis. Les sanctions adoptées samedi par le Conseil de sécurité de l'ONU constituent une violation violente de notre souveraineté, a déclaré Pyongyang dans un communiqué. La résolution du Conseil de sécurité pourrait priver Pyongyang d'un milliard de dollars de revenus annuels. Ce texte proposé par Washington a pour objectif de pousser Pyongyang à la négociation après son premier tir d'un missile intercontinental le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. La Corée du Nord a procédé le 28 juillet au tir d'un engin similaire, mettant une bonne partie du continent américain à sa portée. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.